Bonsoir, alors on va commencer. Tout d'abord, commencer par dire qu'on est très heureux d'avoir parmi nous ce soir à Bordeaux Madame Kathleen Mars, qui vient de loin, qui est en France pour quelques jours et qui nous fait qui nous donne le privilège d'être parmi nous ce soir pour parler de son nouveau livre qui s'appelle Aux frontières de la soif. Que dire, nous sommes 3 ans après le séisme d'Haïti. Je crois qu'il y a une vraie curiosité pour les affaires d'Haïti en France. Le Sud-Ouest Dimanche qui est affiché dehors, il y a une pleine page d'interview de Madame Mars dimanche dernier où on l'a questionnée longuement en tant que témoin, en tant qu'haïtienne qui venait témoigner directement, non pas par les médias, mais de la situation d'Haïti. Donc je crois qu'on va pouvoir parler ce soir de ces aspects-là, mais aussi de votre roman, Madame, qui est un peu un roman coup de poing, qui est un roman extrêmement fort sur un personnage extrêmement déroutant et sur lequel de nombreuses questions se posent. Alors, par quoi commencer? Peut-être justement cet aspect de je ne sais pas comment dire, de soif d'Haïti, pour reprendre un élément de votre titre. Je crois que vous avez eu vous-même beaucoup de questions, c'est ça, sur la situation d'Haïti. La France a été frappée. Il y a des relations privilégiées entre la France et Haïti, mais depuis le séisme, je crois que cet intérêt s'est encore accru. Est-ce que je me trompe ?
Absolument. Donc, je dis bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Et évidemment, je m'attendais à ce que, avec ce roman, la question concerne surtout Haïti. Et je me rends compte combien c'est un pays qui attire la sympathie, l'intérêt, la curiosité des gens. Et je me prête volontiers à ce jeu. Évidemment, parler d'Haïti, c'est pas quelque chose de facile. Hein. Malgré tout, je préfère en écrire que d'en parler. Et évidemment, parce que c'est difficile de dire exactement Haïti. C'est difficile. Et je pense que la littérature me donne beaucoup plus de latitude parce que je peux rêver, je peux imaginer. Je peux dire des choses très dures aussi, mais c'est de la littérature. Alors, nous allons en parler un peu avec plaisir. Et Aux frontières de la soif, c'est un roman que j'ai écrit sans l'avoir décidé. Parce que très souvent, il arrive qu'on se dise, bon voilà, j'ai une histoire qui me trotte par la tête, un personnage depuis quelques mois, depuis quelques années. Et puis, un beau jour, on décide, on commence l'écriture. Et après le séisme, je me suis posé la question, et je suppose que mes collègues écrivains aussi, vivant en Haïti, particulièrement, se sont posé la question de savoir est-ce qu'il fallait écrire un roman post-séisme? Est-ce qu'il nous fallait, est-ce que nous étions obligés? Et vraiment, s'il y a quelque chose que je n'aime pas dans l'écriture, c'est d'être obligé d'écrire quelque chose. Donc, je m'étais dit, bon, je vais laisser venir, si ça vient, ça vient, mais je ne veux absolument pas me sentir obligée de témoigner ou d'écrire de la fiction ou quoi que ce soit sur la situation d'Haïti après le séisme. Bon, il se trouve que à peu près un an, après janvier 2010, donc vers janvier 2011, je me dirigeais vers sur la route nord, à peu près à une vingtaine de kilomètres de Port-au-Prince, je me rendais à l'île de la Gonâve. Il faut aller prendre le bateau à Cariès. Et j'étais avec un ami qui me conduisait dans sa tap-tap. C'est un chauffeur de voiture publique. Et à un certain moment, j'ai fait un coup d'œil et j'ai regardé ce morne, comme on les appelle. C'est une vaste étendue de morne très aride. Et beaucoup, beaucoup déjà de petites tentes, de bâches. Et j'ai vu que c'était un camp en pleine expansion. Et je lui ai dit, mais de quoi s'agit-il? C'est quoi ça? Il m'a dit, mais c'est Canaan, Madame Mars. Vous n'avez pas encore entendu parler de Canaan? Évidemment, j'avais entendu le nom, j'avais entendu parler du phénomène, mais je ne l'avais jamais eu sous les yeux. Donc, j'ai été vraiment frappée. Et ce qui m'a aussi frappée, c'est cet homme quand même de condition très modeste qui m'a dit, ouais, même si on me la jambe après le rite là, ça veut dire que même si on me payait, je n'irais pas habiter à Canaan. Donc, c'est dire que c'est un endroit quand même rébarbatif. Et c'est là que s'est fait le déclic. C'est là pour moi comme quoi que Canaan a brusquement symbolisé toute cette aridité, toute cette misère, toute cette détresse que beaucoup de gens, que tellement de gens vivaient depuis le séisme. Donc, je me suis dit, bon, voilà, ce serait peut-être l'occasion, celle que j'attendais, de parler d'un peu de ça. Donc, et c'est un peu pour dire la genèse de ce roman.
Donc, oui, alors vous dites justement, vous parlez d'un an après le séisme, c'est là où se situe le roman. Mm-hmm. Et vous disiez vous-même que vous l'avez écrit 2 ans après, c'est ça hein, nous sommes nous-mêmes là, c'était le 12, je crois, hein, nous sommes aujourd'hui le 15, ça fait presque
alors c'est
3 ans. Il y a quelque chose comme
dans
ça
la deuxième marquait. Année du séisme que voilà. Bon, j'ai entamé l'écriture qui s'est faite sur à peu près 6 à 9 mois. Et alors, comment tout ça allait s'emboîter, c'était pas évident. Et j'ai voulu, en fait, plus qu'un essai sur Haïti ou bien une carte postale sur Haïti, c'est un petit peu lever le voile sur la vie même en Haïti, parce que généralement, bon, à l'étranger, à l'international, on a la politique, on a le gouvernement, on a les chiffres, la coopération internationale, les ONG, on a toutes des choses très, très froides, très fictives, qui ne disent pas en fait comment vivent les Haïtiens, comment nous survivons à ce séisme, comment nous cohabitons, comment nous rêvons, comment nous voyons l'avenir de nos enfants en particulier. Donc, c'est surtout moi, c'était ça mon propos, un petit peu une sorte de regard et un état des lieux, si on veut, sans prétendre à faire donner une image très réelle et ni des informations tout à fait précises. Parce que, bon, comme je disais, avec la littérature, j'ai beaucoup de latitude et de donner quand même de la chaleur à tout ça, de donner de la vie à tout ça. Donc, c'est comme ça qu'Aux frontières de la soif est né. Donc, le personnage principal est un homme de la classe moyenne, intellectuel, si on peut dire, qui est un homme dans la cinquantaine, de profession libérale, il est architecte et il est aussi écrivain. Il a connu un succès assez intéressant il y a quelques années, mais il est en panne d'écriture et aussi il s'est engagé dans la reconstruction tout de suite après le séisme. Parce que, bon, comme beaucoup d'entre nous, c'était vraiment la grande solidarité, le grand départ. On a parlé de renaissance, on a parlé de reconstruction. Et vraiment, et les 2-3 jours, les 4 jours après le séisme, avant que l'aide internationale n'arrive, avant que toute la mobilisation internationale ne soit à nos portes, eh bien, nous étions, nous autres Haïtiens, livrés à nous-mêmes. Et j'ai vécu des moments de fraternité, des moments d'entraide, de solidarité extraordinaire que je n'oublierai pas et que je ne veux pas oublier, parce que je pense que dans ces moments, nous avons eu la preuve même très, très fugace d'un possible, d'une cohabitation possible, d'un amour entre nous possible. Et je pense que c'est ce qui manque au peuple haïtien qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore sortis de notre situation. Alors, donc ce monsieur est...
Alors, vous parliez justement de cet instant de fraternité. Ça apparaît dans votre récit, un moment où les classes sociales aussi sont gommées, où il y a une sorte de communauté nationale.
C'est ça, toutes les barrières sont tombées. Voilà. Et symboliquement, les murs des maisons sont tombés aussi, parce que, bon, généralement, en Haïti, à cause de l'insécurité, du banditisme, les murs se sont montés au fil des années, au fur et à mesure. Maintenant, on ne voit pratiquement que le toit des maisons. Dans les quartiers résidentiels. Donc, ces murs, pour la plupart, sont tombés. Évidemment, on dormait pendant quelques semaines, sinon quelques mois. On a dormi sur les cours, dans les jardins. Donc, on ne s'inquiétait pas de savoir s'il y aurait des voleurs, s'il y aurait des gens à venir. Parce que c'était ça. Eh bien, il n'y avait plus rien à perdre, en quelque sorte. Donc, je reviens à ce personnage qui, très enthousiaste de la reconstruction, a proposé ses services et il s'est vu décerner un contrat pour construire, bon, disons, une petite entité, un petit village. Et évidemment, il est plein d'entrain, il veut travailler au changement parce que, bon, tout le monde, et moi aussi, on croyait que, voilà, tout allait aller pour le mieux. On avait touché au fond de l'abîme et que maintenant, on ne pouvait que remonter. Donc, malheureusement, bien vite le poids du statu quo a pesé sur nos vies, a pesé sur nos habitudes. Les mentalités sont redevenues ce qu'elles étaient, des mentalités qui attendent d'être aidées, qui ont perdu cette énergie de se suffire à elles-mêmes, de s'imaginer. Et voilà, au fur et à mesure, eh bien, il s'est découragé, il a rencontré de plus en plus de barrières et probablement aussi que le fait de ne pas pouvoir écrire, bon, tout ça, évidemment, l'être humain est tellement complexe, il y a eu tellement de raisons qui font que, et voilà, au moment là où je le plante dans ce livre, il est vraiment un monsieur découragé, désabusé, et de toutes les barrières qu'il rencontre.
Oui, alors le côté désabusé est réparti aussi sur d'autres personnages. Un de ses amis le désabuse encore plus en lui disant « mais dans ce pays, on ne peut rien faire, on ne peut plus bouger, on ne peut rien bouger, et ce n'est pas toi qui fera quoi que ce soit ».
Voilà.
Ce discours tient aussi de l'écho autour de lui, avec cette particularité que lui-même est architecte, il travaille à la reconstruction, et on lui dit, même sa femme dans une dispute, lui dit qu'il profite finalement, hein, il fait
de la douleur des gens.
Il profite de la douleur des gens, il profite des programmes plus ou moins efficaces de reconstruction pour son propre profit. Donc il est aussi partie prenante de cette ambiguïté-là.
Oui. Et c'est justement ce discours qui nous pèse, qui est très lourd. Cette affaire de bon, mais écoute, tu ne vas pas changer la situation, fais ce que tu as à faire et puis reste tranquille. Pourquoi te plaindre? Pourquoi vouloir? Il y a un discours un peu défaitiste d'une bonne partie des gens, ou bien d'un genre de blague qu'on transmet, bon, pitons-nous, l'aide-nous là, c'est-à-dire on est laid, mais on est là, on est vivant. Donc c'est une sorte de mentalité aliénée qu'on se transmet, on fait des blagues, mais ce sont des blagues amères. Alors, et voilà, donc, il se retrouve dans cette situation, ce copain-là aussi, mais qui est quand même assez lucide, si on veut. Et voilà, comme ça, de fil en aiguille, eh bien, il y a une chute tout à fait aberrante. Cet homme, eh bien, il est pris au piège d'un filet. Il se retrouve la nuit visitant Canaan, ce camp-là où on prostitue des petites filles. Donc, c'est le drame. Il se découvre une autre personne, un personnage odieux, hideux, qu'il ne connaissait pas. Et il est en train de se débattre avec ses démons.
Oui, alors ça, c'est le point extrêmement frappant de votre roman,
oui.
Sur cet homme qui est donc le narrateur. Et nous, en tant que lecteurs, on se retrouve dans sa tête, dans ses pensées, même dans ses pulsions. Et il raconte ses sorties du vendredi soir, hein, donc dans ce camp de Canaan, ce camp de réfugiés, où on nous le dit longuement, tout se vend et tout s'achète. Et lui achète, prostitue,
oui,
des
oui.
petites filles.
C'est ça.
Et les scènes sont extrêmement percutantes, dérangeantes.
Oui, même. Dérangeantes. Nous avons été dérangés.
Oui.
Bon, le phénomène de prostitution juvénile n'est pas nouveau, il n'est pas post-séisme, il existait en Haïti avant. Je sais qu'il y a des réseaux en Haïti, il y a des réseaux en République dominicaine. Le tourisme sexuel est un phénomène caribéen, de l'Amérique latine, avec l'Internet, la pédophilie est un phénomène planétaire. C'est peut-être tabou d'en parler, mais ce sont des faits réels qu'on connaît. Donc, nous avons surtout connu, après le séisme, un phénomène de viol d'enfants, de jeunes filles, de jeunes femmes, parce que des centaines de milliers de gens se retrouvant dans une promiscuité du jour au lendemain comme ça, à vivre l'un à côté de l'autre avec l'épaisseur d'une bâche comme toute protection, vous imaginez ce que ça voulait dire. Et évidemment, on ne pouvait pas planter des policiers partout pour surveiller tout, donc... C'est vrai, le gouvernement a réagi vivement, le ministère des femmes a pris des mesures, mais toute proportion gardée, ça ne suffisait pas à juguler le phénomène. Heureusement qu'aujourd'hui, les deux tiers des déplacés sont relogés et le phénomène est beaucoup moins inquiétant et beaucoup moins présent qu'il ne l'était il y a 3 ans.
Une remarque simplement sur Canaan, on vous racontait qu'il y a entre 80 000 et 100 000 personnes hein, au moment où se déroule le roman, et ce dont vous parlez, cette promiscuité-là, ici, c'est un peu particulier dans votre monde, puisqu'il vient de l'extérieur. Il a sa voiture, il a sa position sociale, et il profite, et il le dit à un moment donné, qu'il est amené à fréquenter le personnage du proxénète qui revient dans votre roman, des gens qu'il ne fréquenterait pas normalement.
Normalement.
Et des lieux dans lesquels il ne passerait pas, si ce n'est dans le cadre de son travail, pour aider les gens. Donc on a cette ambiguïté-là, où
C'est une ambiguïté, effectivement, puisqu'on peut dire en quelque sorte qu'il est victime de son empathie, puisqu'il est amené, il a été amené à visiter des camps, à travailler avec des déplacés, à questionner du monde un peu à droite à gauche. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'il a été approché par ce personnage-là, justement, qui lui fait métier de relever des clients, de relever des personnes et susceptibles de devenir ses clients.
Ses clients. Vous dites relever, on pourrait presque dire sentir. Et votre personnage de Fito dit à un moment donné, comment a-t-il su, hein? Et on a cette interrogation de plus du personnage, hein, cette infamie qui le dégoûte lui-même, il en parle, et qu'il est obligé de rendre public, ou qu'il est obligé de reconnaître, ou d'avoir montré, puisque justement, il a été approché par le proxénète golem.
Tout à fait. Donc, c'est une qualité de ce golem qui fait un métier qu'il connaît bien, qu'il maîtrise, puisque comment l'a-t-il su, effectivement ? Ce n'est pas écrit sur le front de l'autre qu'il a une faiblesse, qu'il a une fragilité de ce côté, mais il a le flair pour sentir et relever, dépister ses proies potentielles.
Ses proies, les proies multiples. Hein. La parole est aussi donnée dans votre roman aux fillettes, aux mères des fillettes, ainsi qu'à Fito lui-même ou au proxénète. On a ce parcours-là. Mais peut-être, restons sur Fito pour l'instant. Le trouble à la lecture de votre roman, c'est que justement, c'est le personnage principal, j'ose pas dire le héros, mais nous sommes, vous-même, dans votre parole, ou peut-être que les gens qui ne connaissaient pas le roman, dans le début de notre conversation, ce personnage qui aide, ce personnage qui est extrêmement positif, on s'y attache. Et on est en même temps plongé dans son propre dégoût, le dégoût de ses propres actes, de son désir aussi, puisqu'il y a quelque chose de très charnel dans votre roman, de très physique. Et même ces scènes de pédophilie sont racontées. C'est encore une ambiguïté du roman. Pourquoi être avec ce personnage ? On pourrait être avec le maire des victimes, les petites filles que vous évoquez. Pourquoi se planter la caméra là ou planter la narration là ?
Pour moi, ce personnage, il est ambigu à souhait et il traduit un peu aussi notre ambiguïté à nous autres Haïtiens et d'une certaine culture, d'une certaine société qui vivons des situations que nous réprouvons, qui vivons des situations qui nous dérangent, mais que nous n'avons pas la force, peut-être pas les moyens ou n'avons pas encore trouvé et la façon d'apporter des changements à ces situations. Très souvent, il nous arrive de critiquer telle ou telle personne qui a fait qui a posé des actes répréhensibles. Et on est souvent étonné, quelques temps après, de nous retrouver dans ces mêmes situations. Mmh. Et c'est facile de juger, c'est facile d'accuser, de condamner. Mais on ne connaît ses limites que quand on est soi-même mis à l'épreuve. Et ceci va jusqu'à nos gouvernants. Quand on est dans l'opposition, eh bien voilà, on crie haut et fort, on condamne, on dénonce. Et puis maintenant ces mêmes personnes se retrouvent à gouverner le pays, eh bien, nous retrouvons la répétition des mêmes erreurs, des mêmes mauvaises décisions, des mêmes accusations de corruption à une sauce différente. Donc, ce personnage, pour moi, symbolise, et c'est comme la métaphore de la société haïtienne aussi, que souvent nous cédons à des situations, à des actes, à des attitudes qu'autrement nous condamnons ailleurs.
Oui, dans ce parallèle entre votre personnage et le Haïti dans son ensemble, il me semble que dans votre roman, à un moment donné, on dit ça, que Haïti est comme un pays qui n'est pas encore devenu adulte, ou dont les souffrances sont encore des étapes avant d'être pleinement affranchies de tout, pleinement adulte. Je crois que c'est une formule qui est telle que...
C'est une façon de voir. Il y en a qui le pensent comme ça. Il y en a qui disent que... Parce que très souvent, nous demandons... Mais quand tout ça va, la dérive, quand va-t-elle arrêter? quand est-ce que nous allons avoir ce sursaut, avoir une masse critique qui va faire un changement, qui va vraiment mettre ce pays sur des rails, sur le développement, donner du travail à tout le monde. C'est la première priorité dans ce pays, donner du travail et ensuite c'est l'éducation. Mais c'est vrai, les gouvernements sont là, ils font des efforts, mais ça n'a pas l'air de vouloir prendre, ça n'a pas l'air d'être efficace. Et pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène de corruption à la tête qui se généralise à tout le corps du pays. Et ça freine et ça crée un déficit de confiance à l'intérieur du pays, entre les Haïtiens eux-mêmes, entre les Haïtiens et le gouvernement, et leur gouvernement, entre la communauté internationale et les Haïtiens et le gouvernement des Haïtiens. Donc il y a un problème de confiance a priori. Donc, et je reviens à votre question, qui était quoi exactement ?
Non, c'était ça, justement, sur le fait que votre personnage est un double d'Haïti, mais dans ce que vous répondez là, on pourrait compléter peut-être en disant votre personnage est aussi en crise. Hein, c'est la crise du séisme pour le pays, et pour le personnage, ce que vous disiez, il est écrivain, un écrivain qui n'écrit plus, un homme deux fois divorcé, mais qui ne veut pas épouser à nouveau sa nouvelle compagne, il ne veut pas de ce troisième mariage.
Donc c'est un homme qui se cherche finalement, voilà. Et malheureusement, peut-être qu'il a pris les mauvais chemins pour se trouver. Parce que bon, il arrive que des fois, on dérive sans s'en rendre compte, et des fois, il est trop tard quand on réalise. Qu'on a fait mauvaise route, très mauvaise route, dans le cas de ce personnage en particulier. Donc, pourquoi c'est lui le personnage principal ? Parce que moi, en tant qu'auteur, je m'attache aux natures, aux personnages, aux personnalités ambiguës. C'est l'écrivain que je suis. Je ne me pose plus la question de savoir pourquoi on est comme on est, on écrit comme on est. Je me suis posé suffisamment la question. Vous imaginez qu'en Haïti, dans une société quand même petite, fermée, l'écrivain que je suis, qui a écrit à propos de l'homosexualité, de la prostitution, eh bien, bon, j'ai dû déranger pas mal de gens, même si il n'y a jamais d'écho. Et même si on me connaît peut-être plus à l'extérieur qu'en Haïti, même si j'ai beaucoup plus d'articles critiques de l'extérieur qu'en Haïti, mais n'empêche. Mais j'avoue que bon, maintenant, ça passe, hein, on m'accepte, je suis acceptée, on est même très fiers de moi chez moi. Mais sinon, et voilà, ce personnage m'intéresse et sa construction m'a un peu passionnée parce que je m'attache à cerner les nuances vraiment de l'âme humaine. Et c'est en là que je rejoins l'universel dans ma littérature, en dehors du contexte Haïti, qui pour moi n'est finalement qu'un contexte. Ce n'est pas que j'essaie de défendre des positions politiques ou d'accuser, parce que je parle aussi de l'international dans mon roman. Je parle aussi des ONG, je parle des expatriés. Mais j'essaie, c'est surtout un regard, un tableau que je présente et la cohabitation de ces différentes entités et ce qu'elle est aujourd'hui. C'est surtout là mon propos.
Oui, vous parliez des nuances de vos personnages et de l'international. Justement, l'autre personnage principal, c'est une Japonaise. C'est une Japonaise que Fito a rencontrée par email, avec qui il a échangé par email, et qu'il rencontre pour la première fois à l'aéroport de Port-au-Prince au début du roman. Et du coup, effectivement, quand vous disiez votre intérêt pour le côté universel, là, on se retrouve, du coup, à l'échelle planétaire, hein, entre ces deux ouais. pays, ces deux continents. Il y a un célèbre roman français qui s'appelait « Pourquoi le Brésil ?». Je pourrais vous poser la question « Pourquoi le Japon ?»
Effectivement, à un certain moment, j'ai voulu apporter comme une bouffée d'oxygène, faire traverser le roman par un peu d'air, parce que moi aussi, je m'étouffais un peu à Canaan. Et j'ai pensé introduire ce personnage venu de très loin avec un autre regard sur la situation haïtienne et apporter une autre fraîcheur, une autre manière d'être et voir le personnage aussi avec des yeux neufs. Et aussi, j'ai un peu dévié le roman hors de Canaan vers la Grand'Anse, qui est une partie encore très belle du pays et particulièrement le village des Abricots, où ils ont passé un week-end qui sera déterminant dans le futur des deux. Et Donc, ce personnage-là, c'est ça, c'est l'évasion, c'est le souffle, c'est la bouée, en quelque sorte, parce que de rester trop longtemps à Canaan, eh bien, on risque de s'y enliser.
Oui, et pour le lecteur aussi, c'est frappant, on est un peu comme votre couple de personnages, hein, ce week-end improvisé, c'est Fito d'ailleurs, hein, qui a l'idée de partir et de prendre l'air.
Ben, c'était ça, et pour sauver sa vie en quelque sorte. Et l'idée lui est venue comme ça, comme une illumination. Eh bien, il fallait changer d'air, il fallait prendre cette femme et l'amener le plus loin que possible, loin de ses obsessions, loin de ses insomnies. Mm-hmm. Évidemment, et c'est facile de croire qu'en changeant de lieu, on chasse ses démons, en changeant de lieu, on est plus obsédé. Il s'est rendu compte que la petite fille était avec lui partout où il allait. Canaan ne le lâchait pas. Mm-hmm. Mais quand même, il s'est peu à peu acclimaté à autre chose.
Oui, et cette bouffée d'air, ce bol d'air que prennent les personnages est aussi, d'une certaine façon, pour le lecteur, un bol d'air. On se rapproche aussi de Tatsumi. On est plus près d'elle, on sait plus de choses. C'est une universitaire japonaise, une professeure de littérature qui, là, fait un travail de journaliste, finalement, et elle est spécialiste de la littérature caribéenne. Est-ce que vous avez connu des Japonais ou des Japonaises spécialistes de la littérature caribéenne?
Ce personnage japonais n'est pas tout à fait innocent parce que j'ai travaillé en Haïti avec des Japonais pendant quelques années. Donc, j'ai eu l'occasion de les fréquenter sans pour autant prétendre être une spécialiste des affaires japonaises. Mais une collaboration quand même quotidienne sur des années avec eux. J'ai pas mal lu sur de littérature japonaise contemporaine en particulier. Donc, c'était quand même pas trop compliqué. Peut-être que ça aurait été plus compliqué, une Russe ou, je ne sais pas, une autre nationalité. Donc, j'avais cette expérience-là. Donc, ça m'est venu plus naturellement.
C'est frappant dans votre réponse, c'est ce qui se retrouve aussi dans votre roman. Quand les personnages se connaissent ou quand les personnages échangent ou l'intimité, c'est l'intimité des corps. Hein, cette relation charnelle avec Tatsumi est racontée jusque dans ses ratés ou la lenteur de cette découverte entre les deux personnages. Mais c'est aussi parler de littérature. C'est aussi parler présenter à chacun sa littérature. Et Tatsumi connaît mieux presque la littérature caribéenne que Fito.
Oui. Lien, alors là, c'est la littérature. C'est ça, c'est très fort et c'est ce qui donne tout le sens de la relation. Parce qu'à un certain moment, Fito dit que dans le marasme où il se trouvait, elle était peut-être la seule personne au monde dont il aurait pu supporter la présence en cet instant. C'est-à-dire qu'elle communique bien avec lui, ils ont beaucoup d'affinités, beaucoup de résonance entre eux, sans pour autant qu'elle ne le juge ou qu'elle essaie même de savoir trop de sa vie. Elle l'accepte comme il est. Donc, je pense que dans ce sens-là, la relation apporte, sinon une rédemption, mais enfin une nouvelle prise de conscience, un nouveau départ et pour Fito et cette femme vraiment, et c'est comme une providence pour elle finalement.
Oui, là, il y a une jolie formule dans votre roman, il y en a plusieurs, mais je retiens celle-là sur Tatsumi, où à un moment donné, il est dit, Tatsumi est comme une abeille qui butinait les mots au lieu de les chercher. On a ce personnage en liberté, ce personnage de femme qui, là aussi,
tout à fait.
Les choses butinent.
Voilà. Et je me suis mise dans la peau de cette femme aussi, toute japonaise qu'elle est. Et une femme qui voyage, qui vient de très loin, c'est une femme qui se sent libre de beaucoup de choses aussi, libre des contraintes de sa société, libre du regard des gens chez elle. Elle est une femme dans la jeune quarantaine qui n'est pas mariée, et chez elle, c'est presque un défaut, et dans sa génération. Là, maintenant, elle vient faire la journaliste, elle est à côté d'un homme qui écrit, pour lequel elle a beaucoup d'admiration. Eh bien, elle est bien dans sa peau. Et je n'ai pas voulu présenter aussi une petite femme qui est venue et qui dépend uniquement de Fito pour tout. Eh bien, elle est venue avec ses rendez-vous dans son cartable. Elle fait les arrangements elle-même avec les gens de son hôtel. Et Fito même s'en blesse un peu, puisque il a l'impression qu'au fond, est-ce qu'elle ne vient que pour la bagatelle? Est-ce qu'elle ne vient que pour pour qu'il soit la cerise sur le gâteau de son séjour. Donc, mais au fond, c'est une femme que je sens très libre et très heureuse d'être dans cette situation, quelle que soit l'issue de sa rencontre avec cet homme-là.
Et la rencontre qui a ses propres ratés, hein, vos personnages se manquent. Tatsumi, au début du roman, s'enivre et du coup, le Fito est obligé de faire la nounou d'une certaine façon, alors qu'on sait ô combien ça peut être un personnage violent avec les femmes ou avec la féminité, avec les filles qui l'attaquent, les petites filles qui l'agressent, aussi bien qu'avec sa compagne, où il y a une scène extrêmement violente de dispute. Et là, tout à coup, on est dans autre chose, dans cette protection et dans ce désir qui ne se dit que par étapes.
Oui. Et puis bon, cette femme aussi qui, lors d'une première sortie, s'est laissée aller à la boisson au point de n'avoir pas pu se porter elle-même dans sa chambre, c'est quand même pas donné une image très, très intéressante d'elle. Et pourtant, c'est peut-être cette faiblesse qui l'a rendue plus sympathique, plus aimable aux yeux de Fito.
Et du coup, ça donne une image plus sympathique de Fito. On le voit protecteur, attentionné. Et du coup, le personnage se complète comme ça au fil des scènes. Oui. Je voudrais qu'on évoque aussi une autre des forces, à mon avis, de votre roman. On vient de parler des deux personnages principaux. Vous donnez la parole aussi de façon ponctuelle. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est voulu? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez enlevées ou on en parlait tout à l'heure. On est brièvement dans la tête du proxénète et on a son enfance. Et, je ne sais pas si ça explique, mais en tout cas, le personnage, du coup, s'éclaire ou se complète. On est dans la tête des victimes au moment où Fito s'approche. Mm-hmm. On est avec la mère d'une des filles qui est vendue après qu'elle ait vendu sa fille. On a ces flashs comme ça, volontairement brefs,
oui.
Où on a un balayage beaucoup plus complet.
On est avec tout le monde. c'est voulu, ces petites touches, ces flashs, comme vous dites, parce que bon, je n'ai pas pensé nécessaire ni souhaitable de m'attarder sur des longues biographies de ces personnages, mais juste esquisser un peu de ce qu'ils sont, de leur vie, comme ce proxénète, j'ai pas voulu le présenter tout en étant condamnable, il n'y a pas de discussion là-dedans, mais il a eu une vie, il a eu une enfance, il est aujourd'hui ce qu'il est à cause de ce qu'il a été, donc juste faire ce petit éclairage sur le personnage aussi et une façon de parler de la province d'où il vient, de ce lieu quand même où il a été heureux enfant. Et parce que bon, le tout brut, c'était quand même trop simple peut-être, mm-hmm. ou bien trop caricatural. Donc, et de même pour ces petites filles là, et bien, il fallait qu'on les sente vivre, qu'on les sente respirer un peu. Elles avaient quelque chose à dire aussi, et leur innocence blessée, oui. Leur naïveté encore, qui est touchante. Et c'est un peu aussi interpeller le lecteur à cette situation-là.
Oui, un des articles, vous avez eu beaucoup de presse depuis une semaine. Hein, votre roman est sorti depuis le 3 janvier, je crois. Oui. Un des articles évoquait, dans votre roman, cette écriture très axée sur l'humanité. La compassion par petites touches, disait un journaliste. Et je crois que c'est frappant, cette façon-là que vous avez de créer un univers où on est avec tout le monde et chacun est humain, comme vous le disiez. Chacun a une enfance et chacun est humain. Certains de vos personnages s'enfuient. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de la sauvegarde, de l'ordre de la, je ne sais pas comment dire, le sauvetage. On peut s'en sortir de Canaan. On peut s'en sortir des tentes, même si on a 12 ou 13 ans.
Oui, il y a des cas, il y a des destins particuliers, il y a la chance, il y a l'intelligence, et comme je vous disais plus tôt, off micro, et il y a un jeune homme qui fréquente ma maison depuis une dizaine d'années, qui était enfant des rues, qui était le protégé d'une dame à l'étranger. Alors ça, c'est un exemple sur des milliers, mais il en existe aussi des exemples. Il y a des gens qui prennent soin d'autres. À défaut de structure, d'organisation sérieuse, eh bien, il y a quand même de l'entraide entre Haïtiens. Et il y a beaucoup de gens à l'étranger qui aident, qui parrainent des enfants en Haïti. Donc, ce jeune homme-là, eh bien, qui était enfant des rues, dans sa jeune enfance, eh bien, il vient de passer son bac 2. Et il est retourné travailler dans le foyer pour enfants où il est resté quelque temps. Et il est venu, alors il venait nous voir tous les samedis pour qu'on lui donne de quoi tenir la semaine. Et maintenant, il m'a dit, Madame Mars, je vais venir vous voir toujours chaque samedi, mais ce ne sera pas pour chercher de l'argent. Il était tout fier de me le dire. Donc, ce sont, comme disent les Américains, des success stories qui ne sont quand même pas négligeables et qui donnent foi en quelque chose de positif. Oui.
Et c'est ce que vous voulez transmettre.
Absolument.
Oui. J'avais prévu d'autres questions. On parlait de Tatsumi tout à l'heure. Elle s'intéresse à la littérature, elle s'intéresse aussi à la langue. Dans votre texte, on a des passages en créole. Dans l'édition du Mercure de France, ils sont traduits. Simplement une question, certains de vos romans ont été édités à la fois en Haïti et en France. Il y a pu avoir deux éditions différentes, c'est ça?
C'est le premier pour lequel j'ai pu avoir cet arrangement. Parce que il y a une version haïtienne, une édition haïtienne qui est sortie vers mi-2012, parce que j'ai reçu une subvention de la Maison Barbancourt, le Rome Barbancourt, pour écrire ce roman. Donc, et évidemment, la condition était que ce roman est une version publiée en Haïti. Évidemment, je gardais mes droits que maintenant j'ai cédé à mon éditeur habituel. Et j'étais très contente de cet arrangement parce que, d'abord, j'ai donné la primeur aux Haïtiens de ce roman qui les concerne au premier chef. Et aussi, en termes de prix, il est absolument beaucoup plus abordable que les livres importés qui nous reviennent en librairie à Port-au-Prince ou à Pétionville. Donc, je remarque que de plus en plus d'écrivains essaient d'obtenir ce genre d'arrangement avec leurs éditeurs français ou canadiens.
D'accord. Une remarque, puisqu'on parle des maisons d'édition. Dans Sud-Ouest, on vous posait la question sur la vie intellectuelle, l'après-séisme, les maisons d'édition, les choses perdurent, les gens continuent à écrire. On a eu nous-mêmes en France des témoignages directement, ce que vous disiez, après séisme, Ferrière ou autre.
Si, si. La vie culturelle est toujours intéressante en Haïti. Je rectifie, nous n'avons pas vraiment d'éditeurs de romans en Haïti. Il y a peut-être une ou deux boîtes importantes qui font surtout dans le scolaire, dans l'édition scolaire ou historique. Mais il n'y a pas un marché assez intéressant pour justifier un contrat avec un écrivain. Moi, avant de trouver une ouverture sur la France, j'ai publié 5 livres à compte d'auteur. Et c'est la plupart de nous, c'est comme ça que ça commence. Et puis, évidemment, on n'écrit pas pour rester dans les tiroirs, on écrit pour avoir le plus de diffusion possible. On écrit pour faire connaître notre littérature, on écrit pour en vivre. Donc, c'est notre souhait à tous d'être édité à l'étranger, mais c'est un cheminement, c'est un parcours. Pour certains, ça marche, pour d'autres, ça ne marche pas. Donc, c'est un peu ça la situation. Mais en termes de culture, oui, il y a un théâtre, un jeune théâtre qui est très, très riche, très dynamique. Il y a une poésie, une jeune poésie aussi en Haïti qui est très forte, et une poésie en créole aussi, d'expression créole de plus en plus. C'est une façon pour les jeunes de s'affirmer, d'affirmer leur particularité, leur identité, ou même de se porter, de prendre le pied de cette tradition francophone qui pour eux est peut-être une sorte de voie d'exclusion, puisque la langue française aussi peut être une exclusion en Haïti. Donc il y a la musique, il y a la peinture, et il y a quelques foyers culturels qui se réunissent hebdomadairement. Il y a des bibliothèques de proximité dans les provinces. C'est vrai, ça aurait pu être beaucoup plus riche, beaucoup plus événementiel, mais n'empêche, il y a quand même une vie culturelle intéressante.
Oui, et une vie culturelle qui rayonne aussi, hein, votre présence parmi nous. Ça montre aussi cette force de la littérature haïtienne où on est en lien avec l'étranger. Il y a un rayonnement, hein, au-delà, au-delà des frontières. Justement, votre personnage, Tatsumi, est moqué à un moment donné dans une scène par des petits-enfants qui l'appellent la chinoise, et elle demande à Fito de traduire, et elle veut à tout prix se présenter en créole. Et dans votre roman, les passages en créole sont des... Alors, il y a ce passage-là, et après, il y a les passages de transactions, enfin, ou de conversations viriles entre Fito et son proxénète. Guide, voilà. Oui, oui. Pour le lecteur, dans cette version-là, c'est troublant de voir ces passages traduits. Hein. Dans votre roman, il y a aussi cet écho des langues, multiplicité des langues.
C'est ça. Il m'a paru que... Bon, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup, mais dans certaines scènes bien particulières, il m'a paru important de présenter quelques échanges en créole, parce que, bon, voilà, et traduit peut-être en français, ils auraient perdu de leur intensité ou de...
Oui, ça crée quelque chose de particulier.
De particulier.
En particulier sur les conversations entre les deux hommes. Mm-hmm. Effectivement.
Oui. Donc, c'est un peu ça. Bon, question aussi de faire goûter au lecteur français, francophone, et un peu de créole, et de lui rappeler que je réfléchis aussi en créole quand j'écris.
Et le créole est pourtant cantonné, comme vous le disiez, à quelque chose d'un peu... Enfin, c'est à la marge dans votre roman.
Oui, oui. Bon, évidemment, j'écris en français. Je vise un public francophone. Mais en Haïti, c'est quand même une minorité de personnes qui maîtrisent la langue française. Et de plus en plus, le créole a droit de cité, ce qui n'est que justice, d'ailleurs. Mm-hmm. Mais bon, évidemment, il y a beaucoup d'arrangements à faire. Il y a encore beaucoup de conflits sur la question. Est-ce qu'on apprend le français à partir du créole ou l'inverse? Quelle place donner à l'un par rapport à l'autre? Ce sont encore des sujets en débat. Mais voilà, c'est quand même, ça va se retrouver, je suppose, de plus en plus dans nos écrits, des passages dans notre langue maternelle.
On a commencé cette conversation, vous avez commencé en parlant de ce que vous vouliez, cette dimension que vous n'aviez pas peur de vous atteler aux choses les plus étonnantes, les plus déconcertantes, les plus tabous aussi. Les réactions à votre roman, quelles sont-elles? Il y a des choses qui sont, j'ai employé l'expression tout à l'heure, mais qui sont vraiment de l'ordre du coup de poing, qui sont vraiment de l'ordre de choses qui perturbent le lecteur.
Tout à fait.
J'imagine que pour les Haïtiens eux-mêmes, c'est un miroir qui est tendu à une certaine réalité qu'on
ne
va peut-être pas voir.
Bon, pour être franche, je pense qu'il a sorti 3 articles sur le livre en Haïti. Depuis sa sortie en juin 2012, la version haïtienne. Et c'était 3 articles positifs, élogieux, je dirais. Et il n'y a pas eu de contre-voix, il n'y a pas eu de notes dissonantes. Et je ne m'en étonne pas parce que, bon, voilà, quand on n'aime pas, on ne dit rien. Ou bien alors, et la peur que d'en parler soulèverait un débat qui risque d'aller trop loin, je ne sais pas. Sous un des articles sortis dans le journal, il y a une version électronique de ce journal. Il y a cet espace en bas où il y a des commentaires. Oui. J'ai vu une personne anonyme poster un commentaire et dire que c'était honteux que j'aborde un sujet pareil. C'est tout. Ça n'est pas allé plus loin. Mmh. Et évidemment, j'aurais aimé en entendre plus et je respecte cette opinion. Et ce n'est pas me blesser que de contester mon choix ou le critiquer carrément. Mais bon, malheureusement, nous n'en sommes pas là en Haïti. Et l'écrivain travaille un peu dans une grande solitude. Parce que, et encore, j'ai de la chance qu'il y ait eu des articles. Le pire, c'est quand on ne dit rien du tout, mais rien du tout. Et ça peut arriver aussi.
Et en France, où on parlait tout à l'heure, vous avez fait le tour des médias et vous avez donné beaucoup d'interviews depuis une semaine. Vous disiez tout à l'heure qu'on vous interroge surtout sur Haïti, c'est ça?
Oui.
Le sujet lui-même était un peu évité aussi, c'est peut-être quelque chose sur le...
Ah non, absolument pas. Parce que quand même en France, c'est un sujet délicat. Mm-hmm. Et je me rappelle l'année dernière, en janvier dernier, je travaillais fort au roman. C'était au moment du festival Étonnant Voyageur, dont il y a eu une version en Haïti. Et j'étais à bavarder avec deux amis écrivains africains. Et je leur disais, voilà, je travaille sur tel projet. Et j'ai dit le mot pédophilie et ils m'ont dit, ah non, ça ne va pas marcher. Et que en France, c'est le sujet qu'il ne faut pas aborder, c'est le mot qu'il ne faut pas dire maintenant. C'est fini, les journalistes ne réagissent plus à ce genre de sujet, etc. Bon, écoutez, c'était trop tard, je m'étais déjà lancée de toutes les façons et j'assume cette liberté de discuter d'un sujet qui me tient à cœur. Maintenant, qu'il soit bien accueilli, eh bien, c'est encore mieux. Qu'il soit critiqué, c'est encore mieux pour la démocratie. Mais bon, voilà, c'est comme ça.
Votre personnage, dans un discours intérieur, a une réflexion du même ordre, d'ailleurs, hein, sur le mot pédophilie, avec une sorte de coquetterie, alors que, par ailleurs, il ne peut ne pas se faire de compliments à lui-même ou être assez lucide sur lui-même. Il dit pédophilie, quel affreux mot, vraiment comme si le mot masquait les actes et comme si le problème, c'était les mots et pas ses propres actes. Phyto a cette propre remarque. On peut peut-être s'arrêter là. Il nous reste à vous remercier beaucoup de votre présence, de votre chaleur et de votre talent.
Merci à vous d'être venu. Ça a été un moment très chaud, très, très, très plaisant. Merci beaucoup d'être là. J'apprécie énormément.